Ami de la littérature et néanmoins professeur de français, bonjour. Voici « Des souris et des lettres », une émission consacrée à l'usage des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement du français et des langues anciennes. Technologies que nous appellerons TIS tout au long de cette émission. Aujourd'hui, volume 1. En léger différé du CRDP d'Orléans, nous avons donc le plaisir de vous proposer cette émission, la première d'une série que nous souhaitons riche. À l'initiative de ce projet, Madame Nadine Pinsard, IPR de Lettres, pilote de l'équipe Lettres TIS, et c'est Philippe Godiveau, animateur du même groupe qui dirige les opérations. Nous n'aurions pas pu venir à bout de ce travail sans la technique du CRDP, l'aide technique de la mission TIS, et du Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, le CLEMI de l'Académie d'Orléans-Tours.
On la personne aujourd'hui d'Hélène Duvialard, qui joue les animatrices.
Au sommaire, pour vous démontrer que les TIS sont un outil commode, voire essentiel, dans l'enseignement des lettres, des témoignages argumentés, des débats vifs, de fécondes polémiques et des conseils très pratiques. Des sons authentiques, des sites conseillés et quelques surprises. Pour commencer sur une note distrayante, écoutez ces quelques brèves de salle des profs. Le thème ? Les enseignants et ces drôles de machines. Une création de Vincent Dumas et Michael Mercier. Toute ressemblance avec des paroles déjà entendues et des personnes existantes n'est bien sûr que pure coïncidence.
Si vous voulez mon point de vue, je préfère tout de même utiliser des livres.
Pour une analyse d'image, je télécharge, je la repixelise en JPEG ou alors je la numérise et c'est tout de même plus confortable qu'un vieux rétroprojecteur.
Les TIS ? Quelle horreur ! Des câbles partout, voilà ce que c'est.
Sérieusement, plutôt qu'un diaporama basique, je te conseille un paperboard.
J'ai eu un petit problème. J'ai fait une séance d'oral sur Audacity, mais les fichiers WAV me prennent trop de mégas.
J'ai la solution. Tu télécharges le fichier DLL, LAME, ANC, tu le charges avec le logiciel et ensuite tu peux directement exporter tes fichiers en MP3. Pour importer sur l'UNT, tu crées d'abord un espace de cours, ensuite tu débloques l'icône Documents.
De toute façon, la salle informatique est toujours occupée.
Merci à vous pour ce bon moment. Poursuivons plus sérieusement avec le sujet du jour, rubrique que vous retrouverez dans toutes nos émissions. Nous avons tous entendu des remarques de collègues de lettres regrettant parfois de ne pas utiliser les ressources offertes par les TIS, ressources qui pourraient enrichir leurs cours pour peu qu'ils les maîtrisent et qu'elles leur permettent de gagner du temps. Certains se désolent que le traitement de texte corresponde au maximum de leurs compétences. Et pourtant, de nombreux outils leur sont accessibles. C'est donc à la question « Comment un enseignant de lettres peut-il utiliser les TIS de façon simple et efficace ?» que les professeurs installés ici au micro vont répondre. Philippe Godiveau est entouré de Christian Perrier, Anne Burel et Sylvie Royot. Ils sont tous professeurs de lettres, classiques ou bien modernes, en collège ou en lycée. Merci à vous d'être présents autour de cette table pour mettre vos compétences, trucs, expériences à la disposition de vos collègues. Je suis professeur de lettres novice en TIS, mais qui a envie de s'y mettre ? Qu'est-ce que je vais trouver sur Internet qui va pouvoir me faire gagner du temps et apporter un plus à mon enseignement du français ?
Eh bien Hélène, je vous dirais que sur Internet, on peut trouver de tout. On peut trouver des textes, bien sûr quand on est littéraire, on peut trouver des images, on peut trouver du son, mais je pense que pour nos collègues, le but est surtout de trouver avant tout ce qui va apporter une plus-value à leur cours. Je vous donne un exemple. En cinquième, comment ne pas utiliser l'exposition virtuelle de la BNF pour aborder la légende d'Arthur. Cette exposition me permet d'avoir accès à des manuscrits, des commentaires très précis, une iconographie très riche. C'est cela qui doit guider nos collègues.
D'accord, mais quel intérêt à aller sur Internet pour trouver des textes ? J'ai des livres à la maison et je peux très bien les photocopier ou les scanner.
Alors, les textes sont à peu près tous sur Internet. Or, on ne dispose pas de tous les textes dans sa bibliothèque, c'est un premier point. On peut trouver en 5 minutes le texte qu'on cherche. Bon, je donne un simple exemple d'un collègue qui se désespérait de trouver un texte de Fontenelle qui n'était plus édité et qui ne pensait pas vraiment le trouver sur Internet. Il l'a trouvé en l'espace de 5 minutes exactement et... En 5 minutes, il était sur son traitement de texte, prêt à être travaillé et utilisé pour un fichier à disposition de ses élèves.
Et puis en plus, c'est vraiment beaucoup plus propre que de faire une photocopie ou même qu'un qu'une photo ou qu'un scan. Hein. Et il faut quand même reconnaître aussi que ça offre beaucoup de possibilités pédagogiques. Vous parliez tout à l'heure, Hélène, de simplement du traitement de texte, mais rien qu'avec ça, on a la possibilité vraiment de récupérer le texte sur Internet, de l'importer sur ce traitement de texte, et là, de le retravailler à volonté. Donc, ce qui veut dire que le texte, il n'est plus monolithique, on peut en faire ce qu'on en veut, en garder juste un petit bout pour l'étudier avec les élèves, et puis même en classe, on a la possibilité, avec un vidéoprojecteur, de projeter ce texte au tableau. On a la possibilité après, donc avec le surligneur dans Word, de faire des repérages, par exemple, en lecture analytique de champs lexicaux. Hein. Et puis, une autre expérience que j'ai menée cette dernière semaine, là, j'étudie avec mes élèves une lettre qui est extraite de Madame Bovary. C'est le moment où Rodolphe écrit à Madame Bovary pour la quitter. Et donc le texte est assez compliqué parce qu'en fait on a deux voies. On a l'écriture de la lettre, donc le contenu de la lettre, et en même temps donc on a les remarques que Rodolphe fait sur cette lettre et les remarques assez désobligeantes qu'il fait sur Madame Bovary. Et c'est vrai que mes élèves de 4e, au début, ne comprenaient vraiment pas la portée de ce texte. Et donc ce qu'on a fait, simplement avec la souris, on a séparé en deux ce texte. Donc on a dissocié le contenu de la lettre des interventions de Rodolphe. Donc ça s'est retrouvé sur deux pages différentes. Donc ça nous a permis de voir donc déjà dans un premier temps le lyrisme de la lettre. Et ensuite les élèves ont pu voir l'hypocrisie qu'il y avait dans cette lettre de Rodolphe, rien qu'avec les petites interventions séparées. Donc voilà.
Merci. Oui, bien sûr, mais Internet c'est grand. Alors où trouve-t-on ces œuvres en texte intégral ?
Alors deux exemples. Il existe un grand nombre de sites qui proposent des textes appartenant au patrimoine que l'on peut télécharger. Je vous donne simplement deux exemples simples à utiliser. ABU, le site de l'Association des bibliothécaires universelles, et Athéna. Alors ABU propose un grand nombre de textes qu'on peut télécharger sous divers formats et permet également de faire une recherche lexicale directement sur le site. On peut chercher les occurrences de tel terme, etc. Il faut signaler aussi Athéna, qui est un site qui fait un répertoire de tous les textes français et étrangers, d'ailleurs. Hein, mais bon, ce qui nous intéresse, nous, plus particulièrement, ce sont les textes en langue française, en indiquant les liens avec lesquels on peut trouver ces textes. C'est-à-dire, Athéna en propose certains, mais le site propose également les liens vers d'autres sites, notamment Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France, qui permettent de retrouver... Donc, quand on consulte Athéna, on est à peu près sûr de trouver le texte que l'on cherche.
Et qu'est-ce qu'on peut en faire ?
Alors, l'intérêt de télécharger des textes numériques, c'est évidemment de pouvoir ensuite les retravailler, de pouvoir faire des recherches de tel ou tel passage en ligne, et de les mettre à disposition des élèves. Hein, j'ai l'habitude, en première par exemple, ou en seconde, mais là, je prends le cas pour les premières que j'ai cette année, de mettre tous les textes que nous étudions, toutes les œuvres complètes que nous étudions, de leur mettre à disposition, ce qui leur permet ensuite de faire des recherches, quand ils ont un exposé par exemple, de ne pas perdre de temps à feuilleter le livre, de pouvoir sélectionner des passages, de pouvoir retrouver des passages précis et de se fabriquer un fichier qu'ils peuvent utiliser par la suite.
Alors ce qu'il faut noter aussi, Hélène, c'est que bien sûr, il y a les bibliothèques de texte libres de droit, hein, respectons bien la législation, mais aussi il y a des bibliothèques d'extraits, voire d'œuvres intégrales sonores. J'en donnerai deux. Tout d'abord, LibriVox. Mais surtout, à mon sens, le préféré, littératureaudio.com, où on peut aller chercher les œuvres sous forme de MP3 et ainsi favoriser la lecture en autonomie. Je pense par exemple aux élèves qui souffrent d'un trouble du langage, ce qu'on résume parfois en dyslexie seulement, et ça permet de les aider, de leur fournir une aide au moment de la lecture. Et ce que je vous propose pour vous rendre compte de la grande qualité de littératureaudio.com, c'est d'en écouter un extrait.
Condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme, Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée.
Alors, de la même manière qu'on peut utiliser donc, le texte récupéré donc, sous une forme texte pour faire des lectures analytiques, c'est vrai que les passages comme celui qu'on vient d'écouter peuvent aussi être utilisés pour faire de la lecture analytique uniquement à l'oreille. Donc ça permet de travailler la concentration des élèves. Et puis autre chose qu'on peut faire également, ce sont des dictées. C'est-à-dire que le professeur peut s'enregistrer et peut faire des dictées avec ses fichiers sons.
À ce sujet, un très bon logiciel gratuit pour tous, c'est Audacity. Là, comme vient de le dire Anne, ce n'est plus une ressource que l'on trouve toute prête, mais c'est à l'enseignant de construire lui-même sa ressource avec ce petit logiciel très simple.
Et voilà, c'était pour les sons et pour les images maintenant alors.
Pour les images, il existe tout un panel de ressources, dont une s'impose entre toutes, le Louvre. Alors on pourrait dire les sites qui sont tout prêts, tout faits, comme par exemple bien sûr le Louvre, mais une fois n'est pas coutume, mettons notre académie en avant, puisque nous avons depuis 10 ans, nous sommes heureux d'en fêter l'anniversaire, un concours qui s'appelle « Des mots pour voir » et qui, à l'occasion duquel on propose tout un panel de ressources iconographiques plus riches les unes que les autres. Donc je vous donne rendez-vous ici sur le site de l'Académie d'Orléans-Tours, la rubrique lettres, où vous pourrez avoir plus ample renseignements. Et puis il y a même la possibilité parfois de trouver sur Internet des tableaux qui apparaissent dans les œuvres littéraires.
Alors je ne veux citer comme exemple que... Un exemple emprunté à Bellamy de Maupassant qui propose, qui fait allusion à un moment à un tableau collectionné par le financier et homme d'affaires Walter, qui va être le futur beau-père de Bellamy et qui collectionne des peintures assez académiques par ailleurs, dont un certain Munkhazy, peintre hongrois, peu connu. Et en tout cas qui ne figure pas d'une manière fréquente dans nos bibliothèques et même dans nos CDI. Et il se trouve que j'ai pu trouver le tableau dont il est question dans Bellamy très facilement sur Internet. Donc on peut trouver des choses même très pointues, très peu connues, à partir de cette immense bibliothèque, cette immense... encyclopédie qui est devenue Internet.
Merci Christian. Voilà donc de précieuses informations. Nous savons ainsi qu'avec Internet, nous disposons des richesses d'une bibliothèque mondiale, d'une pinacothèque étendue, d'un musée sonore prodigieux. Les points de repère et jalons que vous nous avez donnés éviteront à quiconque que quiconque se noie dans cet océan de connaissances. Il serait dommage de se passer de tout cela, dommage aussi de ne pas en faire profiter nos élèves. Ceux et celles qui n'ont pas eu le temps de noter les adresses retrouveront toute la sitographie sur le site de la web radio. Après ce tour d'horizon de la toile, retournons dans les classes pour notre troisième rubrique, Ils témoignent. Sylvie Royot et Christian Perrier vous font partager leurs pratiques quotidiennes à travers des exemples vécus. Vous allez voir comment ils utilisent les tisses en classe et vous pourrez observer en quoi celles-ci constituent une plus-value dans leur enseignement. Sylvie Royot en collège.
Alors nous allons commencer par une activité qui est simple. Simple à réaliser parce que sa mise en œuvre ne nécessite pas de connaissances informatiques très poussées. Il faut avoir dans la classe un vidéoprojecteur relié à un ordinateur. On peut très bien projeter sur un tableau blanc, ce n'est pas très compliqué. Et sur le traitement de texte, on va se livrer à une activité de réécriture. On sait bien à quel point nos chérubins adorent, ici il s'agit d'élèves de 6e, écrire et réécrire. Écrire, ça va, réécrire, ça se gâte. Donc l'objectif, c'est d'apprendre aux élèves à améliorer leurs écrits et à prendre conscience des processus de correction. Voici comment va se dérouler l'activité. Sur le traitement de texte, je crée un tableau très simple, 2 colonnes, 3 lignes. Sur la première ligne, je colle à gauche et à droite le texte d'un élève. J'ai retranscrit la rédaction d'un élève. Alors, en 6e, c'est la rédaction en entier. Elle peut être prise en entier. Plus tard, ça sera un extrait de la rédaction. Par exemple, en 2e, simplement un paragraphe. En général, je rectifie avant de commencer l'orthographe parce que ce n'est pas la peine d'exposer pendant 1 heure tous les élèves à de multiples fautes d'orthographe. Et ensuite, commence l'activité. Dans la colonne de gauche, nous allons, objectif après objectif, essayer de signaler ce qui a besoin de rectification. Par exemple, dans le premier objectif, c'est de corriger les répétitions. Eh bien, nous allons surligner répétition après répétition. Les différentes couleurs permettent très bien de visualiser qu'on a pu faire 2, 3, 4 types de répétitions qu'on peut retrouver à différents passages du devoir. À droite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on supprime ces répétitions. Avec l'aide de la classe, chacun fait ses propositions et on choisit les meilleures. Ensuite, on obtient un texte qui est déjà amélioré puisque nous l'avons déjà passé en revue une première fois. On le recolle dans la deuxième ligne, à gauche et à droite, et ensuite on passe au deuxième objectif, puis éventuellement à un troisième objectif. Donc on se fixe à chaque séance 2 à 3 objectifs. Ça peut être organiser le devoir en paragraphes, enrichir, supprimer les répétitions, etc. Donc les élèves vont voir se matérialiser la correction et ils peuvent ensuite reproduire cette démarche en autonomie sur papier ou sur support informatique.
Bien, merci Sylvie. Et voici maintenant un témoignage enregistré de Sylvie.
Moi j'ai bien aimé la correction parce que on a pu voir les fautes, on les a surlignées. De différentes couleurs, c'était visible
et c'était beaucoup plus facile d'organiser, donc de déplacer des groupes de mots sur ordinateur que sur le papier. Et c'était pareil pour remettre des mots qui convenaient mieux au texte.
Bon, bah moi aussi, j'ai bien aimé la séance de correction au vidéoprojecteur. Le problème, c'est que quand on a un peu de mal à comprendre les choses sur les feuilles, là, c'est pratique pour nous aider. Donc les répétitions, on peut les supprimer très facilement, on peut enrichir le texte très très simplement, on peut rajouter des mots, les enlever quand on veut. Du coup, à la fin, on améliore le texte à chaque fois.
Et si vous pensez par hasard que c'est bien pour les collèges, et qu'en lycée on n'a pas besoin de ça, Christian Perrier va peut-être vous faire changer d'avis.
Alors moi j'utilise un TBI en classe. Et j'avoue que je peux difficilement m'en passer maintenant. Et j'utilise ce TBI d'une manière très simple pour simplement pratiquer cet exercice canonique qui consiste à travailler avec les élèves la lecture analytique des textes. Donc, première chose, j'affiche le texte sur le TBI, ce qui est déjà un avantage énorme, me semble-t-il. Ensuite, avec ce texte, nous allons pouvoir le surligner, nous allons pouvoir en copier ou coller les passages, nous allons pouvoir constituer un fichier, un parcours, en pouvant recopier le texte sur plusieurs pages et en se promenant d'une page à l'autre. On va éviter la saturation qui se produit parfois sur un tableau ordinaire, un tableau classique. Et enfin, on va pouvoir enregistrer ce qu'on a fait pendant la séance et le mettre à la disposition des élèves sur un site. Donc les élèves auront la mémoire du cours directement à leur disposition par la suite.
Et si vous avez besoin de compléments et n'êtes pas encore convaincu, écoutez plutôt ce témoignage enregistré par Christian.
L'avantage de ce tableau interactif, c'est que nous pouvons projeter sur le tableau l'image du texte étudié en plus grand afin de permettre aux élèves et aux professeurs une meilleure visibilité. De plus, nous pouvons surligner avec le stylet du tableau interactif les éléments du texte importants afin de bâtir par la suite un plan.
L'intérêt que j'y vois également, c'est la mise en commun des idées. Chaque élève peut aller au tableau pour proposer son analyse, ce qui nous facilite la synthèse par la suite. On peut enregistrer les différents écrans qui correspondent aux différentes étapes de l'analyse des textes. Et on les met ensuite en réseau, ce qui permet à tous les élèves d'y avoir accès en dehors des...
Ces exemples nous montrent qu'on peut utiliser un tableau blanc interactif ou un vidéoprojecteur pour rendre plus efficaces des exercices obligés en français. La correction de rédaction devient plus attrayante et plus motivante. On gagne du temps aussi dans l'analyse des textes. Ce sont des exercices clés en main, en quelque sorte, que vous pouvez dès demain expérimenter dans vos classes. Vous aurez noté que ces pratiques motivent particulièrement les élèves parce qu'elles apportent du nouveau et de la variété dans des exercices habituels et qu'elles sont aussi très structurantes pour eux.
Les souris.
Quatrième rubrique de l'émission des souris et des lettres, nos élèves et le réseau. Aujourd'hui, un sujet qui concerne l'ensemble de la communauté éducative, un sujet qui a tendance à fâcher, le cahier de texte en ligne. On entend tout sur lui, et les avis aussi, entre Big Brother et l'avenir radieux. Une polémique développée par Anne Burel, Philippe Godiveau et Christian Perrier. Certains jouent un rôle de composition.
Alors moi, je suis loin d'être une tissot-sceptique, hein, vous le savez très bien. Je suis assez convaincue pour plein de choses et on travaille suffisamment ensemble pour que vous sachiez. Mais on n'est vraiment pas d'accord et ça, je ne reviendrai vraiment pas dessus. Un des points vraiment sur lequel j'ai des réticences, c'est l'utilisation du cahier de texte en ligne. Hein, pour plein de raisons, on en a déjà parlé, et la première des raisons, c'est quand même le temps. Déjà, je trouvais que le cahier de texte papier, il était extrêmement long à remplir. Là, très honnêtement, entre les temps de connexion, les différents endroits où je dois cliquer, sans compter que même si j'utilise Letis, je ne suis pas une sténo, je ne suis pas secrétaire, je ne tape pas si vite que ça. Hein. Moi, je suis désolée, je trouve que ça me prend vraiment un temps fou. Donc, je sais que vous allez me dire que l'avantage, c'est que je peux le remplir à la maison, sauf que désolée Christian, je te vois faire la grimace là, mais moi je suis désolée, à la maison je trouve que j'en fais déjà assez comme ça. Hein. Et avec l'informatique, il y a quand même ce risque là, vous pourrez quand même pas aller contre moi quand je dis ça, qu'on en fait quand même de plus en plus à la maison, alors que...
Mais Christian a le droit de sourire, et il a raison. Parce que, en fait, là tu pars de l'idée que le cahier de texte en ligne, c'est juste à la maison. Soyons très honnêtes, les ordinateurs se généralisent depuis quelques années, non seulement dans les salles informatiques que nous connaissons tous avec une grande qualité, mais en plus, et de plus en plus, dans la salle pour le professeur à son bureau. Donc, si tu veux, comme tu remplis le cahier de texte papier, tu peux très bien le remplir à ton bureau. Deuxièmement, tu me dis « je ne suis pas une sténo ». Tout à fait d'accord avec toi, très peu de gens le sont, mais quand tu prépares ta séquence, Anne, tu la prépares sous forme d'un tableau, avec tes objectifs et tout ce qui doit être mentionné. Donc moi, ce que je recommande à mes collègues, c'est tout simplement au début d'être très modeste, très humble, et de commencer par un simple copier-coller de ce qu'ils ont pu produire. Après, ils vont se familiariser avec l'outil, et tu verras que toutes tes peurs vont petit à petit s'envoler. J'ai autre chose aussi comme contre-argument, parce que tu sais, j'aime bien dire le contraire de toi, c'est que tout simplement, actuellement a lieu la réécriture de la circulaire qui régit le cahier de texte papier pour se mettre au service du cahier de texte en ligne. C'est-à-dire que le temps qui était dévolu avant au papier sera dévolu cette fois-ci au cahier de texte numérique.
Oui, puisque nous sommes entre nous et que personne n'écoute, moi je voudrais te dire... en ce qui concerne le problème du temps, que j'avais tendance avant le cahier de texte numérique à oublier, entre guillemets, de remplir le cahier de texte, parce que ça me prenait trop de temps après les cours. Je ne trouvais pas le temps de le remplir. Et depuis que je peux le remplir chez moi, tranquillement, au moment que je choisis, eh bien, je remplis très régulièrement, très sagement, mon cahier de texte. Et pour moi, c'est un avantage énorme. Alors, je ne parle pas... peut-être que tu voulais aborder cela. L'intérêt que présente le cahier de texte en ligne aussi, c'est de pouvoir rajouter des fichiers, mettre des liens vers des sites, etc. Bon, ça n'existait pas auparavant.
Oui, enfin, bon, moi, je suis désolée. Je veux bien, à la limite, reconnaître qu'effectivement, pour quelques raisons, depuis de temps en temps, mettre les fichiers en ligne, ça puisse être confortable pour moi, ça puisse même rendre service aux élèves. Hein, ça, je veux dire, pour les élèves quand ils sont absents, pour ceux qui ont du mal à noter le travail. Donc là, je vois bien qu'il peut y avoir un intérêt. Hein. Moi, ce qui me gêne aussi, c'est qu'il n'y a pas que les élèves ou moi qui peuvent avoir accès à ce cahier de texte. Hein. Et je suis désolée, mais pour moi, oui, ça sent le... Tu peux grimacer, hein. Ça sent l'Orwell à plein nez. Hein. Je suis désolée. Donc déjà, il y a les parents qui peuvent se mêler... davantage encore de ma pédagogie, aller voir ce que je fais. Et j'ai pas forcément envie que les parents se mêlent de ce que je fais avec leurs enfants, qu'ils aient un droit de regard sur le travail à faire, etc. D'accord. Pour le reste, non, je suis désolée, je suis maître de ma classe. Autre personne qui peut y aller, C'est par exemple l'inspecteur et je dois reconnaître que la perspective que l'inspecteur, sans que je le sache, puisse venir consulter mon cahier de texte, ça me met mal à l'aise. Et puis, autre personne susceptible de venir faire la même chose, c'est le chef d'établissement. Là, c'est pareil, je n'ai pas envie non plus qu'il me demande de compte sur ma pédagogie.
Oui, mais Anne, tu sais, bon, Christian grimace, moi je trouve des solutions, c'est la répartition des tâches. Je vais essayer de te donner quelques solutions. Premièrement, concernant les parents d'élèves, je vais te rappeler les nouveaux programmes. C'est que le professeur est libre de faire des choix à l'intérieur des rubriques selon le niveau de sa classe et son projet d'enseignement. Je ferme ici les guillemets. Donc, en fait, tu peux expliquer aux parents ce que tu fais, mais tu n'as pas de compte à rendre. Par ailleurs, le chef d'établissement, tu n'es pas redevable de ta pédagogie. Donc, ton cahier de texte, tu fais comme tu veux pour le remplir. Et c'est après ton inspecteur qui viendra voir si tout est en bonne et due forme.
Enfin, moi, je rajoute tout simplement que ce que tu présentes comme un danger, un risque, à savoir que les parents regardent le cahier de texte ou que le chef d'établissement ou que l'inspecteur, ça existe, même sans la version numérique. À tout moment, un cahier de texte papier, l'inspecteur pouvait le consulter, même sans t'en parler, même sans le dire, au cours d'une visite qui n'était pas forcément annoncée, de même pour les parents. Le problème, c'est que ce cahier de texte papier, enfin moi j'ai vécu cette expérience-là, à partir du mois de février, il avait disparu. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir avoir un outil fiable. Il faudrait peut-être aussi rappeler que le cahier de texte, loin d'être un danger pour nous, ça peut être aussi une garantie. Et précisément, devant des plaintes ou des protestations, tel professeur n'a pas fait telle partie du programme, tu peux opposer le cahier de texte.
Hein. Revenons des choses simples, Anne. Je vais tout de suite te convaincre. Moi, écoute, j'ai des élèves qui souffrent d'un handicap, qui s'appelle la dyslexie. Tous les soirs, leurs parents connaissent une grande galère. Il faut retrouver les cours, retrouver les devoirs. Et la seule réponse de leur enfant, c'est « je ne sais pas ». Où as-tu rangé ça ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne sais pas. Alors là, il faut commencer à faire fonctionner les réseaux, le petit copain, téléphoner aux parents, s'ils sont là, sur le portable, etc. Là, plus de problème. Les parents se connectent au site de l'établissement et ils trouvent tout ce dont ils ont besoin, tout simplement.
Ouais, enfin, ça, ce que tu me dis là, c'est quand même à condition que tous les élèves aient un ordinateur chez eux. Hein. Et malheureusement, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas partout, mais c'est même quasiment le cas nulle part. Et donc, ce qui veut dire aussi qu'on en revient à pénaliser. On en revient à pénaliser toujours les mêmes élèves. Et puis, on augmente la fracture numérique. Je suis désolée.
Non, mais ça, tu dis le cas de nulle part, excuse-moi, mais ça n'est pas exact, parce que c'est un outil qui se répand de plus en plus. Il y a une progression exponentielle de ces équipements. Alors c'est vrai qu'il y a encore des gens qui n'ont pas cet équipement, mais les élèves peuvent consulter le cahier de texte dans l'établissement. Il y a suffisamment de postes à disposition. Et je crois que c'est une évolution qui va se faire, de même que la télévision à une époque, Internet et l'ordinateur, c'est quelque chose qui pénètre de plus en plus dans tous les foyers.
Mais l'évolution, elle n'est pas que matérielle. L'évolution, elle est aussi du rôle que l'enseignant doit tenir. Moi, je considère que mon rôle, c'est d'essayer de ménager des accès pour mes élèves. Accès au CDI, accès en salle de technologie. Quand lorsqu'ils ont fini leur activité technologique, il leur reste 10 minutes, un enseignant préférera qu'ils aillent regarder les documents fournis plutôt que de faire un petit peu les imbéciles sur les fichiers des autres copains. Ça, je pense que c'est le rôle de l'enseignant et que donc ce support fait changer un petit peu notre métier. Ça, c'est vrai.
Merci à tous. Nous savons que les espaces numériques de travail ou ENT sont amenés à se développer dans les lycées et les collèges. Le cahier de texte en ligne ne sera qu'un des éléments de ce dispositif. Mérite-t-il tant d'inquiétude ? Peut-être faut-il attendre et voir l'utilité que les élèves y trouveront avant de juger. Nous allons terminer cette émission sur une note positive. À Sylvie Royot, professeure de lettres classiques en collège, de nous présenter les sites du jour, des sites qu'elle fréquente habituellement et sur lesquels elle emmène ses élèves. Voici donc des coups de cœur qu'elle tient à nous faire partager.
Alors à tout seigneur, tout honneur, le premier site, c'est celui qu'a cité Philippe tout à l'heure, celui de la BNF. Les expositions virtuelles de la BNF sont tout à fait remarquables. Elles ont une interface très soignée, très esthétique. Il y a des documents textuels, sonores, des animations, le tout d'une très grande richesse. Pour vous donner un aperçu, un simple petit aperçu de ce qu'on peut y trouver, quelques expositions qui correspondent directement au programme de 6e. Vous avez par exemple Homère sur les traces d'Ulysse, je dois avouer, une de mes préférées. Une autre exposition sur les contes de fées avec une petite application pédagogique très amusante qui permet aux élèves de 6e de constituer un conte en choisissant eux-mêmes les composants de leur conte comme ils choisiraient les ingrédients pour un gâteau. Une autre exposition sur le héros d'Achille à Zidane. Et croyez-moi, Achille est tout aussi motivant que Zidane. Une autre qu'on peut consulter en parallèle avec le professeur d'histoire sur les livres de parole, la Torah, la Bible ou le Coran, sans compter des livres à feuilleter, par exemple la Bible de Charles le Chauve, avec une remarquable enluminure de la création pour illustrer un cours. Mais bon, aussi beaucoup d'autres sur la BD, les livres d'enfants, la ressource est d'une richesse incroyable. N'oublions pas aussi quelques sites pour l'enseignement des langues et cultures de l'Antiquité. Deux exemples. Le premier, Musagora. Il suffit simplement que dans votre moteur de recherche favori, vous tapiez Musagora et vous obtiendrez le premier lien vers le site. C'est un site consacré à la culture antique. La culture antique au sens large, puisqu'il s'agit d'un carrefour entre les différentes disciplines. Le latin, le grec, certes, mais aussi l'histoire de l'art, la philosophie. Vous y trouvez toute une série de ressources, des dossiers thématiques avec des textes anciens et modernes, de l'iconographie, des activités pour les élèves, et j'en passe, ainsi qu'une liste de diffusion réservée. On y retrouve beaucoup de professeurs de lettres classiques, mais aussi des amoureux de la culture classique français ou d'ailleurs. Pour terminer, quelque chose de plus anecdotique, il existe sur le net, et oui, une radio en latin. Ce sont nos amis finlandais qui ont créé les Lunti Latini, et vous pouvez y trouver, aussi bien en fichier MP3 qu'à l'écrit, quelques documents sur l'actualité. Je vous ai fait préparer un petit fichier qui présente un fait d'actualité, l'anniversaire de la chute du mur de Berlin. Et je pense que ces quelques phrases en latin vous amuseront parce qu'on y retrouve une tentative de restitution de la prononciation latine avec une pointe assez notable d'accent finlandais. Et vous reconnaîtrez certainement des noms bien connus.
Dies anniversarius vigesimus, amuro berolinensi deiecto, die lune, duque cancellaria, Angela Merkel, Berolini celebratus est. Aderant Mihail Gorbachev, ultimus presidens Unionis Sovieticae, Lech Wałęsa, pristinus presidens Poloniae, qui consociationi solidaritati prefuerat, Miklos Nemet, pristinus presidens Hungariae, qui primus fines patriae in occidentem aperuerat.
Étonnant, non? Qui osera après cela qualifier le latin de langue morte? Voilà donc un site dont la fréquentation est très motivante pour les élèves. Cela les amuse dans un premier temps, puis ils se prêtent rapidement au jeu de la traduction. Ils travaillent finalement sans s'en rendre vraiment compte. C'était notre dernière rubrique, celle qui réconcilie les humanités les plus classiques avec le modernisme dernier cri. Et oui, des souris et des lettres, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous désirez poser des questions, obtenir des précisions sur telle ou telle expérience pédagogique, nous faire part de vos commentaires, critiques ou propositions, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante desouriesetdeslettres@ac-orléans-tour.fr en minuscules et sans accent. Je vous rappelle que la sitographie sera déposée sur le site de la web radio et téléchargeable à cet endroit-là. Merci à toute l'équipe Lettres TIS pour son travail, merci à la mission TIS, au CRDP et au CLEMI pour leur aide. Nous espérons avoir semé quelques graines de bonnes idées et attendons leur germination prochaine. Des souris et des lettres, une émission consacrée à l'usage des TIS dans l'enseignement du français et des langues anciennes, vous donne rendez-vous pour son prochain épisode, qui sera diffusé toujours sur la web radio de l'Académie d'Orléans-Tours, le mercredi 3 mars 2010, en fin d'après-midi. Notre thème, des outils pour accompagner les élèves. Merci à tous et bonne navigation.